Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 pour un nouvel opus de La Gueule Ouverte, une émission d'Attaque Campus. Comme tous les deux mois, la parole est laissée aux jeunes d'Attaque pour qu'ils puissent parler de leur vision du monde. Pour moi, observer le monde en tant que jeune, c'est observer ce qui va, ce qui va pas, mais c'est surtout observer ce que l'on peut faire pour changer les choses. Cela revient à se questionner sur ce qu'on veut, pour nous, pour le monde, pour permettre de répondre à cette terrible et redondante question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Vous savez, cette infâme injonction au positionnement qui, bientôt, permettra de faire l'amalgame entre ce que je ferai et qui je serai. Un questionnement à l'encontre de mon plus pur instinct de jeunesse qui me crie sans cesse « liberté » en guise de réponse. En fait, c'est peut-être ça être jeune, pouvoir encore se projeter dans l'avenir. Un état d'esprit où les choses ne sont pas prises pour acquises, où nous gardons la possibilité de construire demain plutôt que de le subir. Voilà qu'au milieu de ces divagations se dessine notre sujet du jour, l'avenir. Comme disait Aurel San, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Bon, c'est bien beau de savoir que l'avenir est une question de sommeil, mais ensuite. Le dictionnaire Larousse ne nous aide pas non plus, définissant l'avenir comme le temps à venir, ou bien la situation future de quelque chose, de quelqu'un. Alors, je suis allé chercher ce qui a déjà été dit sur le sujet. Une chose m'a frappé. Les réflexions sur l'avenir et son appréhension sont aussi nombreuses que diverses. En d'autres termes, il n'existe pas de consensus sur le sujet. Mais j'ai quand même sélectionné un florilège de citations sur le sujet, histoire de comprendre un petit peu ce dont nous parlons aujourd'hui. Jean Jaurès disait ainsi « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable en l'avenir. » Ici, on voit que l'avenir semble se décrire autour des deux autres temporalités, que sont le passé et le présent, qui le conditionnent. Une vision partagée notamment par Oscar Wilde qui lui disait « Effacer le passé, on le peut toujours. C'est une affaire de regret, de désaveu, d'oubli. Mais on n'évite pas l'avenir, jamais. » Alors, l'avenir s'imposerait à nous, fruit du passé, surgissant dans le présent. Nous serions censés le subir, selon l'auteur. Pourtant, cette vision est contredite, notamment par Antoine de Saint-Exupéry, qui nous dit « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Alors, nous retrouvons l'argumentaire du pouvoir individuel mis au regard de notre impuissance à prédire ce qui va arriver. En soi, j'entendrais presque cette rhétorique parentale maintes et maintes fois répétée. « Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, mais tu dois t'ouvrir un maximum de portes pour demain. » Et justement, c'est ce que Coluche disait. « Les portes de l'avenir sont ouvertes à qui sait les pousser. » Alors, n'en déplaise à Chirac, pour qui trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif, ou alors à un certain Napoléon Bonaparte qui lui disait « On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir, un chef est un marchand d'espérance. » Eh bien, n'en déplaise à ces deux-là, l'avenir, ça semble être quelque chose de personnel, de presque intime. Quelque chose d'inaccessible, soit, d'inimaginable, sûrement, mais quelque chose qui m'appartient, nécessairement. Enfin, Jean d'Ormesson disait « De part et d'autre de votre présence si fragile, le passé et l'avenir sont des monstres assoiffés de temps. » Par là, l'auteur critique la chronophagie du passé et surtout du futur en tant que sujet de réflexion. Et puisque nous assumons notre axe de réflexion, c'est avec plaisir que nous donnons raison, Jean, et que nous avançons sur notre sujet. Effectivement, nous avons vu la vision de plusieurs notables sur le sujet, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en pensent les gens de cet avenir ? C'est la question que se sont posées les instituts de sondage Ipsos et IFOP dans diverses études publiées entre février 2019 et janvier 2020, en partenariat avec l'Institut WISE, le journal Le Monde, l'UNESCO, l'OCDE et bien d'autres acteurs. Attention, il faut toujours prendre des pincettes lorsqu'on parle de sondage et d'instituts de sondage. Ils ne reflètent jamais la vérité, il faut être vigilant là-dessus, mais juste des tendances statistiques qui ont beaucoup de limites. Quoi qu'il en soit, qu'en apprenons-nous de ces études ? Dans une première étude, Ipsos nous apprend que 73 des que 73% des Français seraient persuadés que la France subit une période de déclin. Ainsi, ils sont 64% à dire que l'avenir professionnel qui sera le leur sera dégradé. Ils sont 72% à penser que la retraite sera pénible pour leurs enfants et donc pour l'avenir. Et lorsqu'on parle de déclin, plusieurs sujets de régression sont mis en avant. Le premier, c'est le respect de la nature qui est cité par 55% des Français comme un sujet de régression. Les libertés viennent ensuite avec 68% des sondés. La démocratie, elle subit elle aussi une régression avec 69% des sondés qui citent la démocratie. Vient ensuite la justice sociale avec 73% des sondés. Et surtout, avec 81% des sondés qui citent ceci comme une régression, on parle de la tolérance. L'IFOP confirme cette tendance pessimiste. Tout ne va pas bien. C'est en tout cas ce qu'en disent 84% des sondés qui trouvent l'avenir, je cite, « inquiétant ». Lorsqu'on leur demande de donner trois mots pour décrire l'avenir, eh bien, les sondés vont sortir un mot en particulier, c'est celui d'incertitude qui revient le plus souvent dans la bouche de ceux-ci. Mais c'est les Français qui râlent tout le temps. Vous savez, c'est ces Gaulois réfractaires au changement, ceux qui critiquent pour un oui ou pour un non. C'est ce qu'on entend souvent. Eh ben non, là aussi les instituts de sondage nous donnent raison. Ces inquiétudes sont précisées et généralisées par une étude signée Ipsos, menée sur 30 pays, 5 continents et plus de 25 000 participants. Ce qu'il en ressort, c'est que l'inquiétude est bien révélée quand on parle d'avenir, et surtout avec le sujet du climat. On a ainsi 70% des sondés qui trouvent la situation environnementale inquiétante, et 75% d'entre eux se déclarent plus inquiets aujourd'hui qu'avant. Alors, on a une inquiétude et une anxiété globale. On a un sujet à celle-ci, à cette inquiétude, l'état de la planète, et globalement, une incertitude qui se retrouve dans beaucoup de discours sur l'avenir. Pour passer du quantitatif au qualitatif, pour passer de la donnée à ce fameux discours, nous avons donné la parole à Laurent, un activiste marseillais, pour un format libre sur le thème de l'avenir. Vous allez le voir, l'inquiétude de l'avenir n'est peut-être en fait qu'un doux euphémisme.
Coucou Sylvain, tu m'as proposé le thème de l'avenir. Très compliqué, suivant les essais, livres, analyses que nous lisons. Néanmoins, il y a un mot qui fait contre-écho à l'avenir, c'est effondrement. L'effondrement de notre civilisation est dans beaucoup de bouches de scientifiques. Pourquoi l'invoque-t-il ? J'ai choisi quelques auteurs pour l'expliquer, dont celle qui nous a donné la vie, la Terre. Elle nous parle directement dans le livre de Nathanael Wallenhorst, « L'anthropocène décodé pour les humains ». Allez, je la cite. « Avant que je n'accueille la vie, je connaissais des changements au cours du temps. J'évoluais avec la modification de l'énergie reçue de cette étoile autour de laquelle je gravite, le Soleil. J'étais parfois percuté par des corps spatiaux et j'étais sujette à mes propres forces géologiques. J'ai plus de 4,5 milliards d'années et voilà maintenant des milliards d'années que j'ai accueilli, ou créé, des formes de vie qui viennent m'influencer. C'est ainsi que des petites algues ont permis l'émergence de ce manteau protecteur et nourricier qu'est l'atmosphère. Progressivement, après que des centaines de millions d'années se furent écoulées, des plantes terrestres ont pu trouver place et ont participé à une augmentation de la température. Le vivant ne cesse sans suite d'interagir avec moi. Nous voilà partis pour une longue aventure. À plusieurs reprises, j'ai vu disparaître de nombreuses espèces, tant animales que végétales, sur Terre et dans les océans. La dernière grande extinction a eu lieu il y a 66 millions d'années, avec la disparition des différents dinosaures, tant appréciés des enfants ou des films d'aventure. Il y a 7 millions d'années environ, j'ai commencé à apercevoir les premiers hominidés, caractérisés par une bipédie, un développement des capacités de communication et une expression faciale. Il y a 2,6 millions d'années environ, les premiers représentants du genre Homo, sachant créer des outils en pierre taillés, apparaissent en Afrique. Puis, 1,6 million d'années plus tard, de nouveaux représentants apparaissent et constituent une nouveauté dans les espèces avec la manipulation du feu. La maîtrise de cette technique, en plus d'avoir été utile pour la chasse et la protection nocturne contre les animaux, a permis au genre Homo d'avoir une alimentation riche en protéines et a généré une augmentation des capacités physiques et mentales. Le changement de régime alimentaire des hominidés, permis par le feu, a généré un triplement du volume du cerveau. C'est ainsi que les humains ont actuellement le plus fort ratio cerveau-corps parmi les animaux, même si parfois nous nous demandons s'il est toujours utilisé à bon escient. Toujours est-il que c'est ce qui a permis la complexification du langage, puis le développement des civilisations et de l'écriture. Très rapidement, les hominidés ont utilisé des outils pour agir sur leur environnement et augmenter leur pouvoir d'action. le fait d'exercer une action transformatrice sur son environnement est la marque même de la vie, depuis maintenant plus de 3 milliards d'années. Comme tous les êtres vivants, les humains ont besoin d'interagir avec moi et de transformer leur milieu pour qu'il leur soit avantageux. Les humains, comme un ensemble d'autres êtres vivants, construisent des niches au sein de leur écosystème. Mais j'ai constaté qu'une des singularités importantes des humains est qu'ils collaborent beaucoup. Ils sont capables de modifier leur écosystème avec beaucoup plus de force et de rapidité que n'importe quelle autre espèce. Homo sapiens est apparu en Afrique, il y a 195 000 ans. Savez-vous comment les humains identifient les déplacements d'Homo sapiens sur le globe ? Eh bien, c'est par leur impact sur l'environnement. En effet, à chaque endroit exploré par Homo sapiens, les grands mammifères disparaissent. Il semblerait que nous ayons affaire à une espèce sacrément prédatrice. Il y a environ 10 000 ans, au même moment, à quatre endroits différents du globe, Homo sapiens développe l'agriculture rendue possible par une stabilisation climatique. Ces nouvelles pratiques viennent marquer une rupture dans la relation des humains avec moi et dans les relations des humains entre eux. Ils ont en effet appris à maîtriser mes écosystèmes et à dégager des excédents à leur avantage. Mais si mes écosystèmes vont connaître une transformation progressive qui va finir par devenir radicale et irréversible. Cette transformation est concomitante avec le développement de leur civilisation. La sédentarisation s'installe et la population humaine se développe, en passant de quelques millions à plusieurs centaines de millions en 10 000 ans. Ils apprennent à utiliser l'énergie de la combustion du bois et du charbon de bois. Il y a environ 1000 ans, les humains découvrent l'énergie du charbon fossile en Chine, qu'ils développent ensuite largement en Europe. Il y a 250 ans, les Britanniques apprennent à transformer cette énergie grâce à la machine à vapeur. Ensuite, un tournant a lieu dans l'histoire de quelques-uns des humains avec moi. Cette capacité de transformation de l'énergie permet d'industrialiser la production à différents endroits du globe. Face à ce changement majeur, cela fait 200 ans que des humains perspicaces tirent des sonnettes d'alarme en signifiant que j'entre dans une nouvelle ère. En effet, voilà quelque temps que cette espèce, Homo sapiens, a un impact croissant sur moi. Celui-ci devient global et durable. Mon fonctionnement est réorganisé. Les subtils équilibres entre la vie et le climat sont brisés. Depuis quelque temps, le travail de la matière grâce aux outils des humains s'affine et se développe avec l'émergence d'un ensemble de technosciences, ces associations des sciences et des techniques, jusqu'à la découverte de la fusion thermonucléaire et l'invention de la bombe atomique. Depuis 70 ans, tout ne cesse de s'accélérer, les humains entrent dans une nouvelle étape dans leur relation avec moi. La croyance qui domine chez nombre d'entre eux semble être l'illimitation, que ce soit des capacités des technosciences, de l'émancipation générée par la consommation ou encore de mes propres ressources. De mon côté, j'éprouve plus que jamais la finitude des immensités qui me constituent, l'atmosphère, les océans, la profondeur et la richesse de mes sols. Je perçois bien ce que je vis, j'en ai vu d'autres depuis plus de 4 milliards d'années. Je suis en train de me préparer à vivre un point de basculement dans mon fonctionnement. C'est l'ensemble de mon système qui s'apprête à muter. Je vois bien que ces modifications impacteront les milliers d'années à venir. Ma peau, qui est la biosphère, se prépare à de grands changements. Les espèces disparaissent les unes après les autres. Mon climat s'emballe. Les catastrophes, qui n'ont rien de strictement naturel, puisque l'activité humaine est en partie l'origine, s'intensifient. J'entre dans une nouvelle période de mon histoire. Cette nouvelle période géologique, les humains l'appellent l'Anthropocène. Cela signifie pour eux qu'ils ont modifié de façon durable les conditions d'habitabilité de ma biosphère et que la pérennité de leur aventure est compromise. Les caractéristiques de cette fine couche de vie qui est développée à ma surface sont en train de se modifier. L'échelle des transformations de mes écosystèmes a été décuplée ces dernières années, ces derniers siècles et décennies. Les humains ont acquis une puissance géologique et m'ont fait basculer dans une nouvelle étape nettement moins favorable à la vie humaine. Les humains sont confrontés à une menace dont ils ne savent pas s'ils parviendront à la terrasser. Ils sont à l'origine et au centre de l'Anthropocène. En revanche, j'ai pu observer au cours de la très courte histoire d'Homo sapiens que nous avons affaire à une espèce sociale et politique. Les humains ne se ressemblent pas. J'en ai connu qui dégustaient du caviar, assis sur des montagnes d'or et de diamants troquées contre mes huiles minérales qu'ils appellent pétrole. J'en ai vu d'autres, que j'ai moins connus car leur passage dans ma biosphère fut de plus courte durée, s'activant désespérément au sommet des décharges de manilles pour trouver quelques restes de hamburgers pour leurs enfants anémiés. Tous les humains sont-ils responsables de ces changements environnementaux globaux et de cet impact sur mon fonctionnement ? Effectivement, tous les humains n'ont pas le même impact sur notre planète. Nous pouvons nous référer aux jours de dépassement. Le 15 mai pour la France en 2019, donc nous consommons plus de deux planètes par an. Quatre planètes pour les Américains, huit pour les Qataris, et seulement une pour les Vietnamiens, par exemple. Nous n'avons pas le même appétit suivant nos cultures, mais une chose est sûre est que notre prélèvement des ressources est beaucoup trop élevé, collectivement. Aujourd'hui, les pressions anthropiques emportent la biosphère, le système Terre, vers une transition de phase globale, et nous ne connaissons pas l'état suivant, mais nous pouvons craindre certaines caractéristiques de cette transition. L'effondrement de la société mondialisée contemporaine est un processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, énergie, ne sont plus satisfaits pour une majorité de la population, par les services encadrés par la loi. Cet effondrement sera-t-il lent, un ou deux siècles, ou rapide, 10 ou 20 ans? De nombreux phénomènes naturels ou culturels évoluent suivant une courbe en cloche. Ils commencent à croître rapidement, puis cette croissance se ralentit sous l'effet de différents facteurs, jusqu'à atteindre un maximum, un pic, au-delà duquel ces phénomènes décroissent inéluctablement. Pour la vision thermodynamique du monde, dans laquelle l'économie est décrite, est quantifiée par les flux de matière et d'énergie qui traversent la société. Ce modèle se fonde sur trois stocks, les ressources, le capital et les déchets. Dans leur livre, les époux Meadows et leur équipe du Massachusetts Institute of Technology ont modélisé les conséquences de la croissance mondiale sur un monde de ressources finies. Sur le graphique le plus connu, sur l'échelle de 1900 à 2100, la courbe des ressources est en rouge. Celle de la production industrielle est en vert, celle de la production agricole en brun. Toutes ces courbes sont en cloche, y compris celle de la pollution en vert foncé. Dans ce scénario, la chute démographique est décalée par rapport à la chute de la production agricole, simplement parce que le taux de reproduction des humains se maintient pendant quelques temps, tant que les stocks de nourriture ne sont pas totalement épuisés. La population finit, elle aussi, par décroître. Ce que montre ce graphe, c'est l'effondrement proche de notre civilisation thermo-industrielle. La cause principale en est la dépression des ressources. L'époque actuelle est marquée par les symptômes d'un début d'effondrement qui se sont manifestés dès 2005-2008 à travers le pic pétrolier conventionnel et la crise financière. De nombreux phénomènes naturels ou culturels évoluent selon une courbe en cloche. Production mondiale de phosphates, fertilisants fondamentaux en agriculture, la production d'huile de baleine, par exemple, pour l'éclairage. Les baleines se reproduisent, mais la chasse fut si intense que le cycle de leur population s'apparente à celui d'une ressource non renouvelable comme le pétrole. Autrement dit, l'effondrement à venir s'accompagnera nécessairement d'une décroissance des niveaux de production et de consommation. Les questions d'ordre naturel qui émergent de la catastrophe écologique, elles sont indifférentes aux opinions et à l'agenda électoral. La nature, elle négocie pas. Son évolution, désormais liée aux activités humaines, comme l'indique le vocable d'Anthropocène, se réalise dramatiquement sous les aspects interdépendants du dérèglement climatique, de la déplétion des ressources, de la baisse de la biodiversité et de la croissance des pollutions. Cette catastrophe écologique s'intensifie au point que le maintien de la vie humaine sur Terre n'est plus garanti à la fin du présent siècle. Yves Cochet, dans son livre « Devant l'effondrement », le compte à rebours a commencé, cite quelques étapes de l'effondrement. La première, l'effondrement de la civilisation industrielle possible dès 2020, probable en 2025, et certain vers 2030. Une telle affirmation s'appuie sur de nombreux articles, études et rapports internationaux consacrés à ce que l'on peut réunir sous la bannière de l'Anthropocène, lequel doit être compris au sens de rupture au sein du système Terre, caractérisé par le dépassement irrépressible et irréversible de certains seuils géobiophysiques globaux. Ce type de rupture est devenu inévitable, le système Terre se comportant comme un automate qu'aucune force humaine ne peut contrôler. Ce sera pour l'humanité une période de survie, précaire et malheureuse, au cours de laquelle l'essentiel des ressources nécessaires proviendront de certains restes de la civilisation industrielle. L'activité quotidienne se résumera à chercher un abri, une eau et une nourriture saine. La recherche de ces richesses s'effectuera à l'échelon local et le plus souvent hors des villes. Celles-ci seront devenues inhabitables. La Terre a connu 5 extinctions de masse avant celle que nous traversons aujourd'hui. Chacune provoquant un effacement si complet du registre fossile qu'elles fonctionnèrent comme des remises à zéro de l'évolution. 86% de l'ensemble des espèces ont disparu il y a 450 millions d'années. 70 millions d'années plus tard, encore 75%. 125 millions d'années plus tard, après ça, 96%. 50 millions d'années encore, après, 80%. Et pour terminer, 135 millions d'années plus tard, à nouveau 75%. Ça, c'est les 5 extinctions de masse. Toutes, à l'exception de celles des dinosaures, sont liées à un bouleversement climatique produit par l'effet de serre. la plus célèbre remonte à 250 millions d'années. Elle débuta par une hausse des températures de 5 degrés due au gaz carbonique, s'accéléra lorsque le réchauffement déclencha la libération de méthane, autre gaz à effet de serre, comme on peut trouver avec le permafrost en ce moment, et se termina par une éradication quasi générale de toute forme de vie sur Terre. Nos émissions sont beaucoup plus rapides, selon la plupart des estimations, au moins 10 fois plus. Ce rythme est aujourd'hui 100 fois plus supérieur à celui de n'importe quelle période de l'histoire pré-industrielle de l'humanité. La concentration en gaz carbonique de l'atmosphère est actuellement un tiers au-dessus de ce qu'elle a été durant les 800 000 années précédentes. Il n'y avait pas d'humains à l'époque. Les océans étaient plus hauts de 30 mètres.
Ça claque, n'est-ce pas, hein ? Ça met un coup, comme on dit ici. Là, ce dont on parle, c'est l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. C'est un mot qui fait peur, mais certains le pensent comme une croyance. Le problème, c'est lorsque la croyance commence à être corroborée par des modélisations scientifiques, par des rapports du GIEC, par des modélisations de dynamique des systèmes qui évoluent depuis 1980 et qui, depuis 1980, nous disent la même chose. Pire, lorsqu'on parle d'effondrement, on parle d'une courbe qui suivrait la tendance que l'on suit actuellement, on continuerait comme on fait actuellement, on finirait sur un effondrement, sur tout ce qui vient d'être développé ici. Eh bien, on fait encore pire que prévu. Ça fait peur, mais pourtant, c'est pas ce qui fait le plus peur. Comment penser à la fin du monde qu'on décrit ici, lorsque la fin du monde en elle-même est elle aussi problématique ? Lorsqu'on regarde les chiffres au niveau des sondages que je citais tout à l'heure, on a demandé aux gens quelles étaient leurs principales préoccupations d'en citer trois. Et bien, dans le top 3, le problème de la planète, du climat, ben, fait partie des préoccupations du top 3 de 85% des sondés. Sauf qu'il y a quelque chose qui vient au-dessus. Pour 91% d'entre eux, la première problématique, c'est la pauvreté et les inégalités sociales. Alors, c'est un peu ça notre avenir, à notre génération. C'est un peu comme ça que le monde semble évoluer. Et puis... ça nous donne une certaine qualification, celle de génération climat, ou pire, de génération no futur. Et c'est justement le thème de l'interlude musicale qui va suivre. La chanson s'appelle No Future et c'est signé par l'artiste Giorgio.
J'ai ma pensée que je suis le pire de tous dans mon asile de fous. On garde le poing levé, la nuit debout, des jeunes en HP, des flics qui frappent des femmes qui tiennent tête, les relations sont pleines de lâcheté. Et si le temps est contre nous, la mort est-elle notre alliée? Non, je pense pas, vu la douleur des chimios et la distance que mon père a chialé. Les clowns tristes vont démonter le chapiteau, on n'y croit plus. À la politique et ses promesses, on se détruit. On fait de nos corps des SOS, mentalité obscène. Pour ma France moyenne qui travaille, court après le loyer. Même après ses 30 ans de carrière, fatigué à pouvoir rien faire. Si ce n'est brasser du vent, à couler sous les dettes. À force de larmes et de sang, on transforme chaque semaine en l'ascension de l'Everest. Je balaye les mauvaises nouvelles devant ma porte. Si le bonheur passe, je le séquestre. Avenir, y'a plus personne pour sécher tes larmes. Face à tes discours, on a baissé les bras. Ce que tu proposes, on n'y croit plus, ici c'est nos futurs. On préfère l'overdose ou bien foncer dans le mur. Avenir, y'a plus personne pour sécher tes larmes. Face à tes discours, on a baissé les bras. Ce que tu proposes, on n'y croit plus, ici c'est nos futurs. On préfère l'overdose ou bien foncer dans le mur.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 pour l'émission La Gueule Ouverte d'Attaque Campus qui a pour sujet aujourd'hui l'avenir au sens large, un thème tellement intéressant. Alors, en début d'émission, on a dépeint un avenir plutôt sombre, inquiétant même. Pas étonnant alors que la dernière étude d'Ipsos, menée en partenariat avec l'UNESCO, menée sur des jeunes de 15 à 28 ans dans 22 pays différents, nous sort ses résultats. 87% des jeunes interrogés, près de 9 jeunes sur 10, pensent que notre génération doit agir pour améliorer le monde. Rien que ça. Et pourtant, face à ces grands défis, seuls 48%, moins d'un jeune sur deux, se considèrent suffisamment prêts pour comprendre ne serait-ce que les grands enjeux de la société. Pire, 43% d'entre eux seulement se disent prêts et formés pour agir afin de trouver les solutions pour résoudre ces problèmes dont nous parlons. C'est très peu, trop peu. La conséquence, c'est que moins d'un jeune sur cinq, moins de 20%, déclare être activement engagé sur ces questions sociétales. Un désintérêt ? Sûrement pas. La conclusion de l'étude, qui est citée ici par l'UNESCO, nous dit « Les jeunes n'attendent plus que l'école fasse d'eux des citoyens plus actifs ou plus équilibrés. Mais ils attendent plutôt de l'école qu'elle les prépare à affronter l'avenir sur un plan personnel. » Affronter l'avenir, il est là tout le symbole. On voit alors la place centrale que l'école occupe pour former les jeunes générations à cet avenir incertain. On va avoir d'énormes et d'inimaginables défis à relever. Pour ce faire, nos meilleures armes sont la connaissance, le savoir, l'éducation, la formation, l'apprentissage. C'est grâce à la réflexion que nous pourrons déconstruire ce monde englué dans une crise perpétuelle pour créer enfin les bases du monde de demain. C'est à partir de ce constat que j'ai avancé dans ma réflexion au sujet de l'avenir. Assez naturellement, comme 65% des Français selon les sondages, j'ai pensé à la recherche comme une solution pour répondre aux grands défis de notre temps. C'est comme cela que j'en suis arrivé à m'entretenir avec Ambre et Thomas. Ce sont deux étudiants de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Marseille, qui est un master universitaire visant à former de futurs chercheurs et chercheuses. Ensemble, on a parlé recherche, connaissances, la situation et l'avenir de cette sphère de la société, l'avenir en général. C'était très intéressant de voir leur point de vue, de comprendre quelle est la place d'un chercheur, qui sont les chercheurs et qu'est-ce qu'ils font en soi. Et puis, la recherche, c'est peut-être notre meilleure arme pour penser au futur, pour essayer de sortir de cette situation dont on a parlé plus tôt. Parce que l'effondrement, faudrait peut-être mieux y penser avant pour le préparer. Alors, un entretien riche que je vous propose d'écouter incessamment sous peu.
Moi, je suis Ambre, du coup. Je suis en master sciences sociales à l'EHESS à Marseille. Je suis en deuxième année de master. Et donc, c'est un master de recherche comparative, histoire, anthropologie, sociologie. Donc, ça prépare à la recherche.
Je suis dans la même formation. Donc, je m'appelle Thomas. Je suis dans la même formation à l'EHESS. Et aujourd'hui, on est en dernière ligne droite pour notre mémoire. C'est une école aussi qui pousse à... Au doctorat, donc il y a beaucoup de projets de thèse aussi au sein de notre formation qui s'ouvrent.
Pour moi, la recherche, ça permet en fait d'essayer de comprendre des phénomènes. Donc là, c'est la recherche en sciences sociales. Donc essayer de comprendre des phénomènes sociaux, de société, permet de nuancer, de comprendre, de donner un avis critique en fait sur ce qui nous entoure et d'essayer de délimiter donc ces phénomènes pour en faire des phénomènes sociaux et pouvoir ensuite les manipuler, essayer de trouver des solutions et parce que en fait faut pas oublier c'est des sciences sociales, on utilise des méthodologies qui ont été établies en fait, on arrive avec une question de recherche, on a des hypothèses de recherche, ensuite on a une méthodologie qui nous permet de trouver certaines choses, et à la fin on réfute ou non nos hypothèses, quoi. C'est de la science.
Et puis d'un point de vue un peu militant, en fait, c'est aussi un espace un peu de formation, de construction d'un peu d'armes militantes pour déconstruire le monde qui nous entoure, le système capitaliste dans sa globalité, puis après des particularités. Et donc par exemple, dans mon cas, c'est autour des écoles marseillaises et des mobilisations des quartiers populaires. Et j'y suis arrivé en constatant, en fait aussi en étant un peu révolté par l'état actuel des écoles et de l'enseignement public à Marseille. Et en même temps, en faisant un peu le constat que c'est aussi aujourd'hui autour de ces problématiques d'école, d'habitat, d'espace vert, de services publics, que se reconstruit une nouvelle, peut-être pas une nouvelle politisation, mais des mouvements sociaux qui englobent des populations qui ont un peu rompu avec les syndicats, qui ont un peu rompu avec les partis politiques et tout ça, et qui se retrouvent dans des nouvelles formes d'organisation, des collectifs, des associations. Et les sciences sociales sont une approche, permettent en fait de travailler avec ces mouvements-là Mais il me semble qu'il est très important de replacer les sciences sociales dans un aspect militant, parce que sinon ça devient vite juste de la critique pour de la critique, de l'étude pour de l'étude, et un petit confort pour une petite bourgeoisie qui a du mal à faire avec sa conscience. Mais dans les sciences sociales, c'est vrai qu'il y a un manque d'ancrage un peu plus populaire de la part des chercheurs et des enseignants, et de se dire au bout d'un moment que travailler sur l'être humain, l'étudier, l'analyser, c'est aussi peut-être aussi le fréquenter, et le fréquenter au maximum, essayer aussi de participer à son émancipation. Parfois, c'est très présent dans les livres, très présent dans les paroles, mais c'est beaucoup moins perceptible dans les actes, en fait.
En fait, on se rend compte que y a des gens qui travaillent sur des sujets depuis très longtemps dans différents laboratoires, qui vont publier des articles scientifiques, etc., mais qui seront lus que par des gens qui sont déjà dans ce milieu-là. Et il se crée un peu une sorte de consanguinité de pensée, quoi. Et c'est dommage parce que c'est les sciences sociales, c'est, enfin, pour moi, ça devrait travailler avec la politique. Enfin, c'est des gens qui ont travaillé sur des sujets pendant genre 20 ans, voire plus, qui s'y connaissent, qui sont des experts dans leur sujet. Et je trouve ça hallucinant qu'on ne leur donne pas forcément la parole. Et pour moi, ça devrait être beaucoup plus revalorisé.
Je pense que c'est un défi réel pour la recherche aujourd'hui. En sciences sociales, c'est un défi de pouvoir se dire, arriver à travailler avec des concepts, arriver à garder un certain vocabulaire, parce que y a besoin d'avoir des termes précis et une certaine épistémologie dans le travail. Par contre, à côté de ça, c'est nécessaire d'arriver à vulgariser au maximum. Si on parle de démocratie, si on parle de peuple, si on parle de tout ça, il est nécessaire aussi de pouvoir que ces gens qui ne touchent pas à la recherche puissent s'emparer en fait des concepts et du travail en sciences sociales et du travail en sciences humaines. Si on souhaite que ces populations qui n'ont pas forcément accès à l'enseignement supérieur puissent s'emparer de ces concepts, il est nécessaire aussi d'avoir une manière de s'exprimer et des termes et un vocabulaire qui soit plus ou moins accessible, et une manière d'écrire. Ça va être un grand défi pour justement casser un peu cette image de scientifiques qui passent de séminaire en réception, de cocktail en exposition, et qui ne fréquentent au final que leur propre milieu. À l'inverse, c'est pas aussi que la faute des scientifiques ou des gens de ce milieu, c'est aussi que dans le domaine, dans l'espace public, dans les médias, on a effacé aussi la place de d'anthropologues, des historiens, des sociologues pour favoriser en fait au final en grande partie des économistes, et encore des économistes qui sont souvent rattachés à des pouvoirs financiers. On a barré l'accès à une parole critique, en fait. Tout en disant que personne n'est politique, que tout le monde est apolitique, on veut que sur les plateaux télé, on fait plus de politique, que c'est des experts. Ce terme d'expert, de spécialiste, en fait, a évacué en fait, le fait que, toutes ces personnes-là font de la politique. C'est juste qu'ils sont tellement en accord et en harmonie avec le système dominant, qu'on a l'impression qu'ils font plus de politique. Et donc la pensée critique devient tout de suite des pensées d'idéologues qui viennent cracher ou rabattre leur side théorie marxiste et tout ça. Et donc, voilà, il y a un effort à faire du côté de l'enseignement et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais effectivement, il y a aussi des rapports de pouvoir et des rapports de force entre des espaces médiatiques dominants qui n'ont pas envie d'avoir cette pensée et cette parole critique qui en leur sein, quoi. Dans les endroits un peu dominants et dans les espaces médiatiques dominants, si l'accès est barré, à nous aussi de pouvoir réfléchir à des nouveaux espaces, en fait, à reprendre l'espace public, à se dire faire sortir l'université de ses murs, faire sortir le savoir des petites classes et des petits laboratoires pour montrer que cette pensée critique en fait est accessible et qu'elle est nécessaire en fait à l'émancipation de chacune et de chacun.
Et que cette pensée critique est nécessaire à l'émancipation de chacune et de chacun. Bon, là-dessus, sans surprise, je tombe d'accord avec eux. Mais à ce sujet, ce n'est pas le cas de tout le monde. On l'entend souvent. Les gens n'ont qu'à se bouger s'ils veulent s'élever dans la société et sortir de la précarité, non ? Ils n'auraient pas besoin de chercheurs, de personnes pour vulgariser, non ? Les gens, s'ils sont pas bien, c'est de leur faute au final. Bah non, encore une fois, c'est un cliché ça. Et ça a été prouvé par l'Institut de sondage Ipsos, qui cette fois est rentré en partenariat avec l'OCDE. Et qui a répondu à ce cliché indirectement. Ils ont sorti un chiffre qui est affolant. 190 ans, 6 générations. Ce temps-là, énorme, ça correspond au temps nécessaire pour une famille issue d'une classe populaire pour passer de la pauvreté jusqu'au statut de famille moyenne, avec le revenu moyen d'une famille française. 190 ans pour s'élever dans la société. Et là, on ne parle pas d'efforts, on ne parle pas de mérite, on parle juste de mécanismes sociaux qui nous sont imposés. On aura beau faire les efforts qu'on veut, 190 ans pour s'élever. En 2018, dans leur rapport, l'OCDE concluait « Il n'y a plus de mobilité sociale dans les pays de l'OCDE. » La mobilité sociale étant la capacité d'un groupe d'individus à se mouvoir socialement d'une classe populaire à une classe privilégiée, etc. Il n'y a plus de mobilité sociale dans les pays de l'OCDE. Les revenus, la profession, le niveau d'études, tout ça se transmet d'une génération à l'autre. On traîne avec nous les bagages d'un retard et d'un handicap qui nous est socialement imposé. Et le truc, c'est que tout ça, ben, on peut le comprendre avec les sciences sociales, avec la recherche entre autres. Et là, on découvre toute l'importance de ce qui se passe. On peut étudier ça et on peut mettre en cause les personnes qui sont responsables de ces processus sociaux. Ceux qui tiennent les rênes, qui peuvent changer les choses, mais ne le font pas parce que cette situation-là les arrange complètement. Les sciences sociales l'expliquent entre autres avec par exemple la reproduction sociale. Bourdieu l'a théorisé il y a ça plus de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on sait comment ça marche, ça fait 50 ans qu'ils continuent à nous imposer ça. Alors, déjà que le savoir est accaparé par certains avec la question des experts dont on a parlé, la question du vocabulaire aussi, bah aujourd'hui la recherche, elle est quand même en train d'être déconstruite, encore plus. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent la rentabiliser, comme tous les services publics notamment. Aussi, savoir, c'est pouvoir. Parce qu'en sachant, on peut comprendre, et en comprenant, on peut agir en conséquence. Sauf qu'aujourd'hui, on nous retire les deux. Du coup, on a posé la question à Ambre et Thomas de comment se porte la recherche en ce moment.
Bah, comment va la recherche en ce moment ? Bah, comme j'expliquais tout à l'heure, elle est très peu valorisée et... Donc il y a une petite réforme qu'on essaye de nous faire passer qui s'appelle la loi programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, on l'appelle. Et donc en fait, en ce moment, il y a plusieurs combats. Il y a ça, il y a aussi la réforme des retraites, du chômage, la précarité des jeunes travailleurs, etc. quoi. Et donc la LPPR, ça tend quand même à... Comme tu disais, un peu barrer cet esprit critique et mettre en compétition, en concurrence les différents chercheurs.
Bah, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le projet de loi n'est pas encore sorti. Donc on peut se baser que sur les rapports de groupes de travail autour de ce projet et des déclarations qu'on a pu avoir, autant de la ministre de l'enseignement du supérieur que par exemple du directeur du CNRS. Et c'est là par exemple qu'il y a déjà un premier conflit, un premier désaccord profond, je pense, entre ceux qui sont contre cette réforme et par exemple Monsieur Petit, donc le directeur du CNRS. C'est-à-dire, cet état de fait d'une recherche inégalitaire qui favorise les meilleurs et qui favorise les recherches les plus prolifiques au court terme, eh bien, de fait, nous, par exemple, on est complètement en désaccord et qu'aujourd'hui, ben, la recherche fondamentale, qui n'a pas forcément d'application dans le court terme, est indispensable et essentiel et même devrait être, je pense, la base en fait de la recherche, parce que on n'a aucune idée de savoir exactement ce que seront les besoins de l'humanité ou quoi que ce soit dans les 30 prochaines années. Donc on ne peut pas forcément réduire la recherche. En fait, c'est que la LPPR, dans la suite de la loi LRU et dans la suite des précédentes lois sur la fonction publique, ben, casse en fait l'aspect service public de l'enseignement supérieur pour rentrer dans une conception très managériale,
très libérale et
managériale de l'enseignement supérieur et de la recherche, en disant ben, il faut des résultats très rapidement. Donc c'est pour ça par exemple qu'ils vont développer le travail sur projet, qui est en fait de dire ben, plutôt qu'être rémunéré un laboratoire ou des chercheurs sur un poste fixe, enfin titularisé avec un budget alloué régulièrement, eh ben, il va falloir tous les 3, 4, 5, 6 ans, on ne sait pas exactement quoi, parce qu'on n'a pas les détails, mais il va falloir se revendre, arriver à vendre ce qu'on est en train de faire, à être évalué, à expliquer pourquoi on le fait, à expliquer ses résultats,
à... Il y a des termes genre qui sont utilisés de performance scientifique, ce genre de termes quoi. C'est pour ça qu'on disait il y a un champ lexical de management quoi qui est employé. Il y a vraiment ce genre de termes qui paraissent dans les rapports quoi. Concurrence, compétition. Et donc performance scientifique. Et tout ça, en fait, le problème, c'est que ça déconnecte totalement avec l'idée des sciences sociales, qui est à la base quand même un truc où on fait des sciences, donc c'est censé être objectif. Donc là, en plus, si on travaille pour une entreprise, ça va quand même à un moment bloquer, censurer un peu tout ce qu'on peut dire, quoi. Et surtout, c'est le savoir avant tout. Et là, le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est pas du tout le savoir qui est mis en avant.
Il est facile d'imaginer qu'au final, qui va être le plus favorisé, qui aura le projet, qui aura le financement, ceux qui proposent une recherche qui va performante dans l'idée de pouvoir être favoriser les entreprises, en fait, les entreprises locales. Et alors, bien sûr qu'il faut trouver des débouchés pour les chercheurs, bien sûr qu'il faut trouver des débouchés pour la recherche, mais est-ce que la recherche publique doit être un espace, en fait, de production intellectuelle au service des entreprises, en fait. Et c'est la question, en fait. Et c'est de dire, à partir du moment où tu rentres dans ce schéma de pensée, performance, tout ça, performance liée au marché d'emploi de ta région ou aux entreprises de ta région, c'est dire quand même quelle indépendance dans ta recherche, quelle liberté de recherche. Parce qu'à l'inverse, si on était dans un autre système économique et que ta performance, elle était liée, par exemple, au bien-être et au maximum d'égalité entre tes quartiers populaires et tes quartiers et tes classes moyennes, bon ben là, si c'était ça ton optique de performance, moi, ça pourrait être intéressant de travailler sur de la recherche qui est performante sur ce point-là. Aujourd'hui, la performance qu'on nous explique, c'est qu'il faut être le plus productif possible, il faut être le plus apte et malléable au marché d'emploi, au marché de l'emploi et aux entreprises. Et donc, ça veut dire que ta performance, on va vite voir quels projets vont être pris, vont être acceptés. Si on travaille sur projet, c'est une promesse de précarité à vie. Jusqu'à ce qu'être titularisé, mais titularisé à quel âge, titularisé comment, titularisé sous quelles conditions. Aujourd'hui, il y a un poste qui s'appelle maître de conférence, qui est plus ou moins voué à disparaître. Pour laisser la place, a priori, mais pareil, c'est des esquisses qu'on a, on n'a que des ébauches, mais pour laisser la place, a priori, à ce travail sur projet. Mais ce travail sur projet, ça veut dire que tu peux te faire une recherche pendant 3-4 ans, et au bout de 3-4 ans, on ne te refile pas les financements nécessaires à la poursuivre, cette recherche, et donc au bout de 3-4 ans, tu te retrouves sur la paille, quoi. Et donc, en fait, c'est précariser complètement l'emploi dans la recherche et l'enseignement supérieur. Et ils s'en défendent, mais en fait ils s'en défendent d'un côté en disant non mais c'est pas du tout pour ça. Oui, mais on voit en fait ce qui s'est passé dans tous les autres corps de métier, du public en fait. Ils sont en train de précariser l'ensemble de la fonction publique. Donc aujourd'hui, pourquoi l'enseignement supérieur et la recherche serait privilégié, ne passerait pas en fait et ne se ferait pas aussi toucher par cette vague-là?
Une société qui n'a plus du coup cette marge de manœuvre dans la recherche, c'est pour moi une société qui peut tomber rapidement dans l'obscurantisme en fait, et ça c'est je trouve ça horrible en fait. C'est pour ça qu'on se bat, c'est parce qu'il faut que cette recherche publique puisse continuer à exister, parce que s'il n'y a plus de personnes qui émettent un avis critique et comme tu disais tout à l'heure, qui rendent accessibles du coup tous ces concepts-là qu'on a besoin de connaître pour comprendre le monde qui nous entoure, c'est pour moi une société qui meurt un peu petit à petit, c'est un peu violent, mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça, oui.
Et c'est là où tu vois que tu as un conflit actuellement, parce qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que le fonctionnement actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas idyllique et a largement des défauts. Et en fait, c'est ces deux conceptions qui sont en train de s'opposer frontalement entre ceux qui pensent qu'il faut y mettre cette dose d'entreprise, cette dose de valeur entrepreneuriale et managériale pour rendre la recherche plus compétitive, la rendre plus performante, plus en phase un peu avec le monde de la recherche un peu mondial, anglo-saxon, néolibéral. Et une autre conception qui dit que par rapport aux défis qu'on va devoir relever, défis écologiques, défis sociaux, il est nécessaire que le savoir soit le plus démocratique possible, plutôt que que rentrer dans une forme d'impuissance face à cette recherche qu'on dit bien, elle est inégalitaire et donc on peut rien y faire, mais il faut s'adapter. Mais plutôt sur non, elle est inégalitaire. C'est aussi une des causes peut-être de la situation actuelle, de la reproduction des inégalités et tout ça. Et donc il faut s'y attaquer frontalement en fait. Il faut s'y attaquer frontalement, il faut ouvrir au maximum les universités, il faut pouvoir faire accéder, et non pas sur la discrimination positive à deux balles, mais réellement faire accéder les classes populaires au maximum à ces espaces de savoir, pour pouvoir en fait concevoir un avenir qui n'est pas une micro-élite qui a pu accéder à un savoir de plus en plus privatisé et pouvoir éclairer et guider le reste de la population. Donc, au contraire, que la plus large population possible puisse accéder à ce savoir et décider collectivement en fait, de ce qu'on fait et comment on relève ces défis.
Donc, il y a une lutte au sein des sphères du savoir. Et en même temps, le savoir peut être au service de la lutte. Et la lutte actuelle, les LPPR, pour loi de programmation pluriannuelle de la recherche, ça fait beaucoup bouger au niveau de la communauté enseignante, au niveau des futurs doctorants, au niveau de toutes ces sphères qui touchent au savoir universitaire. Ça bouge beaucoup, mais ce n'est pas les seuls à bouger. Ils font preuve d'initiatives de convergence constamment. Ils sont dans la rue depuis le 5 décembre, aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui luttent contre la réforme des retraites, parce que, comme tout le monde, ils seront impactés là-dessus. Et ça nous laisse le moment et l'opportunité de parler rapidement de ça. On ne peut pas ne pas en parler sur une émission comme celle-ci, sachant que ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas croisés. Là, on est en train de connaître, en fait, juste le plus massif mouvement social du 21e siècle, probablement l'un des plus larges qu'ait connu la 5e République. La stratégie de pourrissement du gouvernement, elle ne fonctionne pas. Au contraire, les gens se rejoignent, continuent plus en plus d'imaginer la lutte, de l'amplifier, et ça se développe. La retraite, pour nous jeunes, c'est peut-être loin, c'est pas forcément quelque chose qui nous préoccupe naturellement, mais c'est bien pour ça qu'on doit beaucoup à celles et ceux qui luttent aujourd'hui. C'est entre autres pour qu'on puisse un jour espérer pouvoir profiter de ce droit, de jour de nos vieux jours, pour nous libérer du poids de l'incertitude pour le futur, que ces manifestants et grévistes ne lâchent rien. C'est pour mes enfants, c'est pour les jeunes que je fais ça, entend-on souvent le long des cortèges. À côté de ça, il faut évidemment placer un mot pour les Gilets jaunes, qui inlassablement, depuis près de 70 semaines, déroulent une nouvelle page de l'histoire sociale et politique du pays. Ils laissent leur marque, et ça changera jamais. Et à côté, dans l'éducation aussi, il y a une lutte qu'on est obligé de citer, c'est celle contre les épreuves dites E3C, et l'application plus générale de la réforme du baccalauréat et de Parcoursup. Ça provoque une réaction déterminée des équipes éducatives et des lycéens, et aussi de toutes ces sphères qui gravitent autour, comme les parents d'élèves. Cette réforme du baccalauréat, elle promeut de la compétition permanente, elle dévalorise les élèves issus d'établissements considérés comme populaires. Ça met à mal le principe d'égalité des chances par la fin du principe de cohérence des épreuves sur le territoire national. Cette réforme, bref, elle est dans la lignée d'une politique éducative qui est aux antipodes des valeurs fondamentales de l'éducation française. Ça prépare le terrain à la compétition, à la sélection, à la hiérarchisation des élèves, et ça ferme la porte tout simplement à l'accès au savoir pour toutes et tous et à la possibilité de se développer comme bon nous semble. Est-ce que c'est vraiment ça le monde qu'on veut pour nos jeunes ? Un monde où notre chemin il est tout tracé dès l'âge de 16 ans. Un monde où il serait quasiment impossible de s'émanciper d'une destinée que le hasard des conditions de développement nous a imposée. Bref, un avenir qui s'éclaircit pas tant que ça, mais on leur a quand même posé la question. Qu'est-ce que nos deux aspirants chercheurs pensent de l'avenir ?
Personnellement, je commence à avoir pas mal de doutes sur mon avenir, sur tout ce que je vais pouvoir faire. Que ce soit pour une question du coup sociale ou écologique, en fait, comme on disait, c'est ces deux trucs-là qui reviennent, mais en fait, on a l'impression que déjà que ça paraît compliqué, on nous met de plus en plus de bâtons dans les roues, quoi. Et on nous vend un modèle, le fait de trouver un emploi qui nous plaît, super stable, d'avoir cette routine-là, de gagner de l'argent, parce que c'est ça qui est important, pour avoir sa belle vie. Et finalement, à côté, on se rend compte que, de plus en plus, on se sent bloqué par toutes ces réformes-là, par le fait que nos ressources s'épuisent totalement, que cet avenir est totalement incertain. Et personnellement, ça commence à être de plus en plus compliqué de se situer là-dedans. j'ai l'impression d'être constamment en dissonance cognitive où je dois rendre un mémoire cette année, je dois valider mon master pour essayer de trouver un métier qui me plaît et à mener la vie qu'on veut que je mène, quoi, en fait, en gros. Et d'un côté, déjà qui me convient pas forcément de base, mais en plus de ça, on rajoute le fait que on me dit que ça va être de plus en plus compliqué pour plein de raisons, en fait. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, l'avenir, pour moi, totalement incertain et je sais pas trop quoi faire. Voilà. C'est pas un super discours plein d'espoir, mais il y en a quand même un peu, sinon on se battrait pas. Voilà, je pense.
Je pense que les crises qu'on est en train de vivre doivent être aussi des sources d'excitation, parce que c'est aussi des crises qui sont signes d'un système qui est en train de se battre à tout prix pour rester dominant et hégémonique, et qui a de plus en plus de mal, qui doit être de plus en plus violent pour y arriver. On compte plus les éborgner, les fracasser, les ci, les ça. Ou les dizaines de personnes qui perdent leur emploi quotidiennement ou qui doivent accepter des emplois pourris. Donc le système capitaliste doit être de plus en plus violent pour arriver à se maintenir de manière hégémonique. Et on voit en face, me semble, plein de nouvelles initiatives, plein de nouvelles formes de mobilisation, d'organisation, de modes de vie, de pratiques très intéressantes. Et tu vois, il me semble qu'il y a un peu côté une poussée de plein de théories qui ont longtemps été cantonnées dans les milieux anarchistes ou libertaires et qui prend et qui commence à se développer au maximum. Je ne suis pas grand fan de YouTube, mais il faut reconnaître malgré tout que c'est quand même un espace où les gens prennent conscience que c'est des sujets politiques et qui ont des idées et qui ont envie de les transmettre et qu'il y a des gens qui les suivent et qu'au final, on n'est plus dépendant du Figaro ou de Libération pour arriver à lire un intellectuel ou lire un avis, une opinion. Que de plus en plus de personnes sont en train de reprendre un peu cette confiance dans le fait que ils ont des connaissances, ils ont des choses à transmettre. Donc je sais pas, il y a ce côté-là de. Les défis sont grands, et en même temps, personnellement, je suis pas grand fan du système actuel, donc la transition risque d'être violente, mais si elle est là, j'en suis plutôt content quand même. Même si, voilà, il va y avoir des violences, elles seront là. Mais l'incertitude, pour moi, elle est excitante. Et je trouve qu'il y a plein de signaux qui montrent que on part pas vers des trucs ultra-autoritaires ou individualistes. À l'inverse, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont besoin et ont envie de retrouver du lien social qui s'est un peu perdu ou qui s'est distendu, de retrouver sa place dans des communautés, de retrouver sa place dans des projets collectifs et tout ça sans se mettre forcément sous l'autorité d'un grand chef éclairé je pense qu'il y a quand même des raisons d'être optimiste.
Alors il y aurait des choses encore auxquelles croire, de l'optimisme au fond de tout ça quand on pense à l'avenir. Sûrement. En tout cas, ce que nous en dit Thomas ici, c'est que si on est optimiste, c'est parce que si tout s'effondre, on aura tout à reconstruire. Et cette construction-là, ça sera notre dernière partie, notre conclusion de l'émission, elle passera entre autres par une partie de l'avenir dont on n'a pas encore beaucoup parlé, l'avenir de la lutte. Rapidement, parce qu'on a pris un peu de retard, on va vous proposer un petit extrait qu'un jeune de Youth for Climate, les jeunes pour le climat, nous a proposé pour teaser un petit événement qui va arriver très vite.
Ce sont des pillards d'air, versent le sang du sol, ignorent effet de serre, ils veulent l'or du soleil, ils ont Dyson Sphere, on se laissera pas faire, sort le brise-glace, les faucheurs de vie, les semeurs de mort, entre eux et nous, distance Terre-Mars, balancez terrassez vieux ports, rendez-vous vieux port 13 mars.
C'est court, c'est efficace, ça a tout dit. Rendez-vous au Vieux Port le vendredi 13 mars prochain pour fêter les 1 an du début du mouvement mondial de grève de la jeunesse pour le futur. Un moment très spécial qu'on est en train de vous préparer, qui va être sympathique. Bon, l'avenir de la lutte, c'est évidemment, vous y attendiez, le traditionnel agenda d'attaque à l'occasion de cette émission numéro 71. Le premier événement sur la liste, c'est les mercredis Bouleg Teston d'Attaque Marseille qui continuent en 2020. Comme depuis 2018, tous les deux mois, Attaque Marseille organise avec la librairie Maupetit sur la Canebière un rendez-vous littéraire à l'occasion de la sortie d'un livre édité par Attaque, par un membre de son conseil scientifique, ou sur une thématique traversant les réflexions de l'association. Ce deuxième rendez-vous 2020 aura lieu le mercredi 19 février à 16h30 à la librairie Maupetit, au 142 La Canebière, dans le 1er arrondissement, autour du nouveau livre de José Rose, publié aux éditions Gossin, et préfacé par Alice Bernard, présidente de l'Association des bibliothèques de France. Ça tombe bien, le livre est nommé « Des bibliothèques pour Marseille, en finir avec l'indolence ». Bon, les bibliothèques, c'est un lieu de culture, de formation, de détente et de brassage social. Les bibliothèques ont beaucoup évolué ces dernières années, mettant à la disposition d'un public de plus en plus nombreux, des ressources et des services de plus en plus variés. Mais dans ce mouvement de renouvellement, Marseille a pris du retard. Ces bibliothèques municipales sont trop peu ou trop peu nombreuses, leurs fonds disponibles pas assez importants et le nombre des inscrits demeure faible. Alors qu'on a, on a pas mal d'atouts qu'on n'exploite pas forcément, on pense ici à l'Alcazar. C'est pourquoi la mise en œuvre d'une politique ambitieuse en matière de lecture publique devra constituer l'un des axes de la reconstruction de Marseille pour la prochaine équipe municipale. José Rose est spécialiste et sociologue du travail. Il a publié « Qu'est-ce que le travail non qualifié ?» aux éditions La Dispute en 2012. Il est membre de l'Association des usagers des bibliothèques de Marseille. Il a également publié « Scène de vie en bibliothèque, voyage en Alcazarie » aux éditions L'Armatan en 2017. Bref, ça se passera à la librairie Maupetit, sur la KO 142 sur la Canebière, et vous y êtes toutes et tous invités, entrée libre dans la limite des places disponibles. Ensuite, avec l'approche du printemps, les apéros mensuels d'Attaque Marseille reprennent de plus belle. On lâche rien, et surtout pas nos verres. Nous sommes installés dans un bar de la plaine, le Petit Nice, un lieu incontournable et une institution dans le quartier. Les tarifs, café à 1,30€, demi à 2€, pastis à 1,50€, mais aussi en hiver, du vin chaud et des madeleines maison. Bref, c'est le deuxième mercredi de chaque mois à 18h, de 18h30 à 20h sous la forme d'un apéro rencontre sans prétention, histoire de mieux se connaître, de parler d'Attaque, des questions qu'elle suscite, des espoirs qu'elle engendre, de ses campagnes et de ce qu'on pourrait faire ensemble pour les voir à venir. Ce prochain moment convivial aura lieu le mercredi 11 mars à partir de 18h30 et jusqu'à 20h au bar Le Petit Nice, situé dans le 1er arrondissement au 28 place Jean Jaurès sur la plaine à deux pas du métro Notre-Dame-du-Mont. Et plus généralement, si vous voulez recevoir des informations sur nos activités, vous pouvez aussi envoyer un message à l'adresse accueil.marseille@attaque.org. Nous vous inscrirons sur notre liste de diffusion. accueil.marseille@attaque.org. On se quitte sur la dernière petite nouvelle qui arrive dans le monde social et militant. C'est Amélie de La Base, un nouveau lieu en construction pour la convergence entre la justice sociale et climatique, qui va nous parler du projet La Base.
Alors, je m'appelle Amélie, je suis dans la région depuis une quinzaine d'années et ça fait bien 10 ans que ma conscience écologique se développe de plus en plus et je suis arrivée à Marseille en juillet en ayant envie de m'investir vraiment dans le milieu associatif et militant pour faire ma part dans toutes les problématiques du changement climatique. Etc. Donc moi, je suis arrivée à Alternatiba fin novembre, que j'ai découvert grâce à l'Alternatibar qu'ils organisent tous les mois. Au Zoumaï, et on m'a tout de suite parlé du projet de La Base que j'ai trouvé super, sachant que moi j'avais déjà participé à la création d'un café associatif sur Aix-en-Provence et j'ai l'expérience que c'est vraiment des lieux qui manquent et qui sont très très demandés par le milieu associatif pour créer, proposer, se rencontrer. Donc j'y croyais à fond, donc là j'essaie d'y accorder le plus de temps possible. Alors, si j'ai bien compris, Alternatiba Marseille, ça existe officiellement depuis l'année dernière, depuis le mois de juin, et il y avait cette idée de trouver un lieu, un local. Donc certains membres d'Alternatiba ont commencé à visiter des locaux et ils sont tombés sur cette perle au Chartreux, dans l'idée d'en faire vraiment un local interassociatif. La Base, c'est un lieu pour agir face au changement climatique, à la protection de l'environnement et à la justice sociale. On essaye vraiment d'associer écologie, justice sociale et plusieurs mouvements, tout en restant ouvert et le plus accueillant à tous. L'idée, c'est de proposer, de sensibiliser, de créer des formations, d'avoir des lieux pour que les associations puissent se réunir. Et une des valeurs principales, c'est la participation. Ce lieu, il est ce que les gens veulent en faire. Donc n'hésitez pas à venir, que vous soyez dans une asso ou pas, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'aspect vraiment concret du projet, le fait qu'il soit ancré dans le territoire et localement, parce que je pense qu'il y a plein de façons différentes d'agir et chacun choisit celle qui lui convient le mieux, mais je trouve que d'être sur le terrain et de proposer un lieu où les gens peuvent se rencontrer, parler et se sentir bien, parce que c'est vraiment ce qui se passe là depuis qu'on a signé le bail et qu'on fait des journées de travaux. Il y a une effervescence de rencontres, de discussions, de bonne humeur, de bonne volonté qui fait du bien à tout le monde déjà, alors que le lieu n'a pas encore ouvert. Et je pense que c'est ça qui permet le mieux de propager les idées et d'encourager les gens à réfléchir de façon constructive et à garder espoir aussi pour la suite. Je viens un peu de débarquer en ville et dans Marseille, mais j'ai l'impression que c'est un réseau où quelqu'un connaît un tel, qui connaît un tel, et on s'envoie des messages et petit à petit on arrive à se retrouver ensemble. Il y a déjà une bonne dizaine d'associations qui sont très intéressées par le projet, dont le Lotec Lab que j'ai cité. On va louer une partie du local à Arémax qui s'occupe du tri des déchets sur les festivals et les événements culturels. Il y a Zero Waste, il y a Youth for Climate notamment. On a une association féministe et écolo aussi qui s'appelle Cœur de Cagole, qui nous a déjà fait des éponges et des tawashi pour qu'on puisse nettoyer un peu tout. Donc petit à petit, il y a des gens qui viennent s'agréger et ce n'est que le début, je pense. Alors, donc nous, on a signé le bail la semaine dernière, c'est tout frais. On a mis en place plusieurs groupes de travaux sur Telegram, qui est une application de communication un peu comme WhatsApp. Sinon, on a créé aussi un outil de travail sur un site qui s'appelle Trello, T-R-E-2-L-O. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Facebook aussi. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est très, très... très présent, autant sur Facebook, Twitter que Instagram. Dans tous les cas, si vous ne retenez pas tout ce que je vous ai dit, vous pouvez passer par la branche Alternativa et envoyer un message et il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra et qui vous enverra vers les liens ou les numéros de téléphone si besoin pour répondre à vos questions ou les adresses mail.
Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.